Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Alors, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai de profondes réflexions quant à notre façon de vivre notre foi. Ce christianisme qui nous a été légué par ceux qui nous ont précédés. Voyez-vous, quoique bien conscient qu'il y a des bornes à ne pas déplacer, d'après ce que Salomon dit, ne déplace pas la borne ancienne, je crois que si nous devons évoluer à la stature parfaite de Christ, rester actuel et en même temps faire évoluer le royaume de Dieu sur la terre où il nous a placés, et particulièrement pour nous qui vivons dans ce pays, évoluer, faire évoluer le royaume de Dieu au Gabon, il y a des choses à revisiter. Il y a des vérités qui l'étaient peut-être hier, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a, à mon sens, une relation avec la divinité, avec Dieu par son esprit, qui doit nous emmener dans des profondeurs jusque-là jamais expérimentées. C'est l'apôtre Paul qui parle en des termes assez intrigants. Et voici ce qu'il dit, Éphésiens 2, 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » L'apôtre Paul dit que nous sommes son ouvrage. Si Picasso est connu pour son ouvrage, si Michelangelo est connu pour son ouvrage, si ceux qui cuisinent sont connus pour la saveur de leur plat et la qualité de leur mets, Dieu doit être reconnu grâce à toi. Tu dois prendre conscience que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. En anglais, on dit masterpiece. Tu es la pièce principale. Dieu n'a pas fait d'erreur en te créant, mais Dieu ne t'a pas juste créé. Dieu a créé d'avance des œuvres bonnes afin que tu les pratiques. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est toujours l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe, cette fois-ci dans 1 Corinthiens 2, 6 à 9. Voici ce qu'il dit. 1 Corinthiens 2, 6 à 9. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Écoutez-moi bien. Que Dieu m'aide à vous dire ces choses ce matin, mais je veux que vous compreniez, à la lecture de ces textes, que Dieu fabrique, travaille, agit en avance. Rien de ce que tu vis n'étonne Dieu. Ce qui te surprend ne surprend pas Dieu. Quand toi tu dis, mince, je ne l'avais pas vu venir, Dieu ne dit pas moi aussi. Rien de ce que tu fais ne pousse Dieu dans la stupéfaction. Dieu ne dit pas, oups, comment est-ce que tu as fait ça? Maintenant, ce que Paul dit, c'est que Dieu a préparé d'avance des choses pour un type d'individu. C'est ce que Paul dit. Il dit pour ceux qu'il aime, mais il explique qu'en réalité, nous qui reconnaissons être son ouvrage, nous avons donc, pour pouvoir jouir pleinement du statut qui est le nôtre, nous avons des actions précises à poser. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas vivre notre vie au hasard. Là, j'aimerais que tu m'aides. Dis à ton voisin, tu ne dois pas vivre au hasard. Regarde, le voisin qui ne te parle pas, c'est le voisin là auquel je veux que tu t'adresses. Dis-lui, tu ne dois pas vivre au hasard. Je vais descendre pour vous dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, plusieurs d'entre vous qui êtes perdus dans la vie, vous êtes perdus parce que vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Le succès, ce n'est pas juste réussir dans ce que tu fais. Le succès selon Dieu, c'est réussir dans ce pourquoi il t'a créé. C'est réussir dans le domaine, c'est réussir dans le couloir, c'est réussir à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu auras échoué selon Dieu si tu réussis dans un domaine dans lequel Dieu ne t'attend pas. Et je vous garantis, les amis, c'est possible de réussir dans le mauvais couloir. C'est possible d'avoir de bons résultats là où Dieu ne t'attend pas. Et c'est ça l'une des machinations de l'ennemi. S'il n'arrive pas à te déconnecter de Dieu, s'il n'arrive pas à te garder loin de Dieu, il veut te garder loin de ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il n'y a pas d'épanouissement en dehors de la volonté de Dieu. Je sais que tu ne dis pas amen parce que ça pique, mais ce n'est pas grave. C'est important que tu comprennes que finalement, le plus important, ce n'est pas est-ce que tu es le footballeur que tu veux être. Le plus important, ce n'est pas est-ce que tu es l'entrepreneur que tu veux être. Le plus important, ce n'est pas est-ce que tu es le prédicateur que tu veux être. Le plus important, c'est de te demander est-ce qu'à la fin de ma vie, quand je serai face à lui et qu'on fera le compte, qu'on fera les points, est-ce qu'il me dira, tu as réussi dans ce dans quoi je t'attendais, tu as fait les œuvres bonnes que j'avais préparées pour toi, ou il dira, tu as vécu comme ça, mais regarde tout ce que j'avais prévu pour toi. La pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un comme toi, comme moi, quelqu'un qui professe Christ, c'est de vivre sur la terre en se disant, c'est pas grave, ce qui compte, c'est juste de vivre. Si tu es sur la terre, c'est pour bien plus que le ciel. Tu es sur la terre pour la terre. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne connaissons pas avec précision. Je sais. Je pense que ça vous est déjà arrivé, mais l'une des questions existentielles que tout le monde se pose, c'est pourquoi j'existe, tôt ou tard. Qu'est-ce que je fais ici? À quoi est-ce que je sers? Et je sais que la plupart d'entre nous, nous sommes d'accord de dire que nous ne voulons pas rester dans un environnement où nous ne sommes pas utiles. J'ouvre là la parenthèse pour dire que tu peux être vraiment là où Dieu te veut, mais ne pas te sentir utile. Je vais fermer la parenthèse. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons pas avec précision, mais dont l'ignorance nous garde prisonniers, esclaves, en otage d'une vie qui n'est pas la nôtre. Ça fait des années maintenant que je suis dans la foi et quelques années maintenant que je suis dans le service de Dieu, le service des hommes, le service de Dieu et le service des hommes. Et je vois régulièrement depuis des années des gens tourner en rond dans la vie. Des gens reconnaître que la vie qu'ils vivent est en dessous, en deçà de ce que Dieu a prévu pour eux. Simplement parce que quoique se posant des questions, ils n'ont pas de réponse. Certaines situations de la vie semblent aporétiques, donc sans issue, parce que nous n'avons pas accès à une certaine science. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas être en même temps la lumière du monde, le sel de la terre, la tête et non la queue. Je suis la tête, je suis en... Je suis... Nous ne pouvons pas être ça et continuellement être esclaves de ceux qui n'ont pas Christ. Il y a une dichotomie, il y a un problème majeur. Quand nous disons, nous sommes la tête et pas la queue, en haut et pas en bas, devant et pas derrière, mais tu es quand même derrière ceux qui n'ont pas Christ. Tu es quand même esclave de ceux qui sont dans les sciences occultes. Il y a un problème quand toi qui professes Jésus à l'église, qui le chante, qui le loue, qui médite et qui prie, tu es esclave dans ton lieu de travail de quelqu'un qui, quoique ne venant pas à l'église, est plus spirituel que toi. Et je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas dérangés par certaines de vos situations parce que vous vous dites « ma patrie est dans les cieux ». Mon problème avec ça, c'est que même quand tu dis ta patrie est dans les cieux, ton estomac réclame à manger. Ton corps a besoin de vêtements. Et tu es dérangé par la situation de tes neveux, de tes enfants, des gens qui t'entourent. Tu es dérangé par l'impuissance qui est la tienne lorsque quelqu'un te demande de régler un problème et tu ne peux pas. Il y a des situations dans la vie qui ne se règlent pas en disant « Dieu va faire ». Il y a des situations dans la vie qui se règlent en faisant sortir un chéquier. Écoutez-moi, la plupart de nos sujets de prière sont liés au vêtir, au manger et au boire. Si on règle la majorité des problèmes que vous avez liés à l'argent, votre vie de prière va changer. Tu pries pour une voiture, tu pries pour une maison, tu pries pour le mari, tu pries pour les enfants. Si tous ces sujets sont réglés, à quoi ressemble ta vie de prière? Tu pries pour construire, tu pries pour étudier, tu pries pour voyager. Vous devez être dérangé. Parce que moi, je refuse de croire que la prière est un moyen d'emmener Dieu à faire ce qu'on doit faire. La prière ne doit pas être un substitut à la responsabilité de l'homme. Parle à ton voisin, dis-lui, ta prière ne doit pas remplacer tes actions. Dieu va m'aider à vous dire ces choses. C'est pas grave si je dis pas tout. Qui prie pour aller se doucher? Tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur, s'il te plaît, soulève-moi de mon lit, emmène-moi à la douche. Qui prie pour se brosser les dents? Tu as mal au ventre. Tu veux aller au petit coin ou grand coin, whatever. Qui prie pour dire, Seigneur? Il y a des choses pour lesquelles nous ne prions pas, parce que nous savons que c'est notre responsabilité. Je crois que pour certains d'entre nous, peut-être pas pour tous, nous avons appris à souffrir avec Christ et c'est un choix continu que nous faisons de porter notre croix individuellement. Je pourrais dire plus, mais ce n'est pas l'objet de mon message ce matin. Mais si Christ nous a appelés à la souffrance, à porter notre croix, Christ a fait de nous qui adorions d'autres dieux, nous qui étions perdus dans les ténèbres, nous qui étions comme des brebis sans berger, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Mettez Apocalypse 1, 5 à 6. Je vais doucement parce que je ne veux pas courir. Pour les choses que je veux dire ont besoin d'un fondement. Apocalypse 1, 5 à 6. Si c'est sur l'écran, lisons. 1, 2, 3. Et le prince des rois de la terre. à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Apocalypse 5, 9 à 10. 1, 2, 3, lisons. De toute langue, de tout peuple, de toute nation, tu as fait d'eux et pas dans le ciel, et ils régneront sur la terre. Écoutez, certains connaissent ce texte, d'autres pas. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le ciel c'est pour Dieu et la terre c'est pour toi. Tu ne régneras pas au ciel. Je vais le redire. Tu ne régneras pas au ciel. Parce que le ciel est le ciel de Dieu. La terre est la terre des hommes. Dieu a fait de nous, qu'il a racheté par son sang, qu'il a délivré du péché. Il a fait de nous des rois et des prêtres, des rois et des sacrificateurs. L'Église n'a plus énormément de problèmes à faire de ses fidèles des sacrificateurs, même s'il faudrait encore définir les standards. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème, vous n'êtes pas dérangés. Les gens ne sont plus dérangés quand dans l'église, on noie des pasteurs. Si je dis tout de suite, Josué vient à partir de maintenant, alors que je lève ma main droite, je prends cette huile, je la verse sur toi, tu es apôtre. Dieu t'appelle à parcourir les nations, à ouvrir des églises, à bâtir. Là où d'autres ont détruit, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Tant que je dis ça, Josué n'a pas de problème, c'est prophétique. Josué n'a pas de problème, les gens n'ont pas de problème. Mais si je prends Arnaud et je dis à Arnaud, ainsi parle l'Éternel. Je dis, tu régneras dans le domaine de la musique. Je dis, tu seras une étoile qui marquera les temps et les saisons de la culture dans ce pays. Tu ne chanteras plus que dans l'église. Je dis, tu chanteras même dans les rassemblements non chrétiens. Je dis, on te donnera des prix qu'on donne normalement à des artistes païens. Je dis, Dieu va faire de toi un luminaire dans le ciel. Tu régneras au Gabon. Quand je dis ça, certains disent amen. Mais beaucoup vont dire non, il doit être chantre. Parce que dans la logique de la plupart d'entre vous, si ce n'est pas dans l'église, c'est que la personne n'a pas d'appel ou de ministère. Et vous êtes d'accord qu'on oigne les gens pour l'église. Mais vous avez du mal à comprendre que la même onction dont quelqu'un a besoin, qui est appelé à être sacrificateur, un roi en a besoin pour régner. Le même manteau dont quelqu'un a besoin pour pouvoir être lévite. Quelqu'un a besoin d'un manteau pour pouvoir être de la tribu de Judas. Je dis, il faut que nous comprenions qu'il y a des enjeux cosmiques, il y a des enjeux mystiques, il y a des enjeux métaphysiques, il y a des enjeux spirituels. Et nous ne pouvons pas seulement oindre les gens pour être des chantres. Nous devons oindre des gens pour être des entrepreneurs. Nous devons oindre des gens pour être des ministres. Nous devons oindre des gens pour être des députés. Nous devons oindre des gens pour être des maires. Nous devons oindre des gens. Pour être des gouverneurs. Écoutez-moi, là où l'église gabonaise a énormément de mal, de très grosses difficultés, c'est à faire de ses fils des rois. Ne parlons même pas de faire des rois sacrificateurs. Parce qu'un roi sacrificateur, c'est quelqu'un qui est capable de régner, mais en même temps de faire des sacrifices. Il n'est pas juste roi, il est roi sacrificateur. D'ailleurs, c'est ce que Hébreux dit. Hébreux dit que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui était à la fois roi de Salem, prince de paix, prince de justice, et qui en même temps était sacrificateur du Dieu très haut. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, si Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs, nous ne pouvons plus nous contenter de la sacrificature. Nous ne pouvons plus nous contenter des conférences entre nous. Nous ne pouvons plus nous contenter du culte. Le culte doit nous permettre de prendre possession dans l'occulte. Le culte doit nous permettre de dominer là où ceux qui ne prient pas avec nous dominent.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.